Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Un dicton de la langue française dit « éduquer, c'est rabâcher ». L'Église en bonne mère se donne souvent ce rôle un peu ingrat, il faut le dire. Ainsi, depuis 1914 a été instituée une journée mondiale du migrant et du réfugié. Cette année, pour sa 105e édition, donc, le pape nous adresse un message en forme d'interpellation. Il ne s'agit pas seulement de migrants. L'occasion de faire le point sur l'augmentation importante des migrations et de se laisser interroger par cet appel vigoureux à accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Coup de zoom sur la journée mondiale du migrant et du réfugié, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, on espère dans quelques minutes, Catherine Witold-Wenden, qui est professeure en sciences politiques à Sciences Po Paris et auteur donc de l'Atlas des migrations, paru aux éditions Autrement. Gilles Hénaud, vous êtes responsable de la pastorale des migrants pour le diocèse de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Et normalement, Raoul Angaradje, ressortissant tchadien et demandeur d'asile, nous rejoindra lui aussi dans quelques instants. Alors, faute d'avoir Catherine Witold-Wenden pour essayer de faire un point, comme on se l'était dit en ce début d'émission, sur les migrations. C'est vrai que c'est un phénomène que l'on dit être en croissance exponentielle. D'ailleurs, le sous-titre de son ouvrage est « Un équilibre mondial à inventer » avec une phrase en plus. « En 10 ans, le nombre de personnes déplacées a été multiplié par 3,5 ». On va, faute de l'avoir pour l'instant, on va commencer avec vous à propos donc de ce message du pape François. Cette journée mondiale du migrant et du réfugié pardon, est donc le 29 septembre prochain. La date a changé, alors c'est peut-être anecdotique, on sait pourquoi. Avant c'était au printemps, maintenant c'est à la rentrée, c'est histoire qu'on en parle davantage parce que c'est là, il y a plus de chances que ça vienne dans l'agenda des journalistes.
Oui, à ma connaissance, le troisième dimanche du mois de janvier, non pas de printemps, mais de janvier.
Janvier, pardon, vous avez raison.
Voilà, avait été institué, sauf erreur de ma part, par le pape Jean-Paul II. Et maintenant, le pape François a souhaité le repositionner en septembre, à mon sens, mais ça me semble beaucoup mieux coïncider avec l'impulsion initiale donnée par le souverain pontife Benoît XV, lorsque, après le déclenchement
du conflit en août
2014, il s'était déjà ému, d'une part, des déplacements de population. Nous étions suite au génocide arménien, à la guerre des Balkans, et il présentait déjà effectivement d'importants mouvements migratoires. Donc, à mon sens, septembre, ça devrait mieux coller, en quelque sorte, avec la réalité historique.
Alors si on doit faire écho juste à l'introduction que j'ai lue précédemment, on peut se dire, bon, une journée mondiale, allez, une de plus, ça revient chaque année, comme on dit dans le jargon journalistique, c'est un marronnier, et pourtant à lire le message du pape François et puis à entendre ses interpellations régulières sur ce sujet, j'ai envie de dire c'est pas une journée mondiale comme les autres. Que pourriez-vous nous dire de l'importance cruciale d'être attentif à cette journée ?
Eh bien, on peut développer tout d'abord la première idée consistant à dire parce que le migrant est d'abord un être humain, ou que le migrant n'est pas que migrant, le migrant c'est un état provisoire, il est bon pour nous, chrétiens, que nous nous intéressions précisément à toute la dimension humaine de la personne et que, à cette occasion de commémoration d'un grand événement institué par un pape il y a 105 ans, eh bien, nous nous souvenions que le phénomène est toujours présent, peut-être de plus en plus aigu, qu'il ne va pas cesser et qu'il est bon, très bon même, que pour lutter contre notre culture envahissante de l'indifférence, comme le dit le pape François, nous nous préoccupions de tous ces gens-là qui sont nos frères. Et ce n'est pas seulement un discours irénique ou angélique, ce sont réellement nos frères, ce sont des gens, il y a de tout, mais des gens souvent magnifiques, avec plein de contenu,
voilà,
donc,
Raoul,
qui peuvent nous enrichir.
Raoul Angaradje, donc, qui va nous rejoindre, qui a des bonnes raisons d'être en retard, parce que donc il est coordinateur de la gestion d'un squat à Toulouse, et souvent il dort peu. C'est donc pour ça, vous me disiez ça en préparant l'émission, c'est donc pour ça qu'il est un petit peu en retard et qu'il a eu du mal à se réveiller ce matin. Il nous racontera son parcours. Alors on va se plonger donc dans le message de cette journée mondiale du migrant et du réfugié 2019, en espérant arriver à joindre un petit peu plus tard Catherine Vitold de Venden, donc auteur de l'Atlas des migrations. Le pape François, comme à son habitude, revient à quelques expressions fortes au sujet de ce sujet. Il parle de mondialisation de l'indifférence, de culture du rejet. Je le cite, « Les sociétés économiquement les plus avancées ont tendance à développer en leur sein un individualisme accentué qui, uni à une mentalité utilitariste et multipliée par le réseau médiatique, produit la mondialisation de l'indifférence. » C'est presque à la cinquième ligne. Le ton est donné. Qu'est-ce que vous diriez de ces expressions que le pape rabâche et re-rabâche et re-rabâche? C'est quoi? C'est une manière pour nous occidentales d'enfin nous regarder dans la glace et...
Elles me paraissent très justes, ces paroles du pape. Il est vrai que quand on est jeune, beau et riche, on n'a pas besoin des autres. On n'a pas besoin de Dieu, mais on n'a pas besoin des autres non plus. Parce que je suis jeune, beau et riche. Et on se souvient que l'autre peut avoir son utilité, tant dans une dimension intergénérationnelle que dans une dimension interculturelle. Lorsque je suis effectivement dans le besoin de quelque chose, il me manque quelque chose. La suffisance apportée par le smartphone, par la télévision, la voiture et la villa et la niche pour le chien, on peut se rendre compte que cette dimension un petit peu trop horizontale, matérielle, est insuffisante. Dès lors, l'autre, avec sa sensibilité, peut m'enrichir, doit m'enrichir, et dès lors, ça va me permettre de sortir...
Avec sa sensibilité et sa différence, en l'occurrence.
De mon indifférence à moi. Donc en fait, c'est presque un appel au secours, à mon sens, on peut le lire comme cela, de la part du pape, disant, mais vous allez dans le mur, les enfants. Vous, les riches, hein, vous, les bien portants, vous allez dans le mur, parce que vous enfermez, et votre cœur se réduit, et vous-même, vous allez devenir de plus en plus inhumain.
Autre expression, on fait peser sur eux un jugement négatif, donc les migrants et les réfugiés, qui les considèrent comme cause des maux de la société. L'attitude à leur égard constitue une sonnette d'alarme qui nous avertit du déclin moral qui nous guette si l'on continue à concéder du terrain à la culture du rejet. Voilà, on peut pas dire que le pape François ne prolonge pas votre propos. Culture du rejet, c'est aussi culture du déchet. Est-ce que quand on est à la tête de la pastorale des migrants, comme celle de Toulouse, alors on vous a choisi, mais il y a des pastorales des migrants dans tous les diocèses que notre radio couvre. Cette culture du rejet, du déchet, c'est des expressions très fortes, hein. On la touche du doigt. Est-ce qu'il vous revient l'une ou l'autre histoire à ce sujet?
Alors oui, mais on peut dire sur le plan du contexte, le pape François nous invite à lutter contre, on va dire, des réflexes malthusiens. Il n'y aurait pas assez de biens consommés pour tout le monde. Hein. Et donc, le réflexe hostile à la migration consiste à dire « Ah mais oui, mais moi, je n'aurai plus assez pour moi. Plus assez à manger, plus assez d'eau à boire, etc. Bon. » Donc, et dès lors, on est amené à penser que l'autre est une gêne, parce qu'il vient venir empiéter sur ma consommation. Hein, Alors, des exemples.
Sur ma consommation ou mon travail?
Mon travail, absolument. Voilà. Il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, il n'y a pas assez de médecins pour tout le monde, et voilà des gens qui arrivent en plus avec des besoins de santé, par exemple. Bon. Donc c'est insupportable à entendre parce que c'est faux. Hein. Ce sont aussi des personnes qui arrivent avec des compétences, qui peuvent se former et qui peuvent aussi donner des générations de médecins. Il n'y a aucun souci. Ils ne sont pas, voilà, les personnes qui arrivent en France, qui nous font l'honneur de venir, ne sont bien sûr pas plus bêtes que nous, au contraire, et peuvent nous enrichir de beaucoup de leur savoir-faire. Alors, peut-être à propos d'anecdotes, moi j'aurais plutôt envie d'évoquer des anecdotes positives. C'est vrai que lorsque on s'ouvre aux autres, eh bien, on est assez régulièrement enrichi. Hein, voilà. Il me vient par exemple cette idée quand on se promène. Après, c'est question d'interculturalité. Quand on se promène en Afrique, hein, on peut voir deux hommes se tenant par la main. Et notre réflexe occidental va dire « Ah tiens, ce sont des invertis. Bon. » Ben non, parce que le geste de se tenir par la main en Afrique, pour deux hommes, c'est un geste amical, de familiarité, mais qui n'a pas d'authentification. Donc on a besoin, alors ce sont des anecdotes, en France, si je tiens un homme par la main, bien sûr, en tant qu'homme, on me classera rapidement parmi des gens infréquentables. voilà. Donc en fait, on a besoin...
Infréquentables pour certains. Hein, parce
pour
que,
certains. Ouais. On a besoin de... Oui, excusez-moi. On a besoin de repenser également nos pratiques et nos codes culturels.
Alors si on avance dans le message du pape François, donc le message de cette année, c'est « Il ne s'agit pas seulement de migrants ». Ce que le pape François entend derrière cela, c'est donc de nous aider à changer notre regard donc, sur les personnes qui migrent. Mais il s'agit aussi de parler de nous d'une certaine manière. Je cite un passage du pape François. « Ce qui est en jeu, c'est le visage que nous voulons nous donner comme société et la valeur de toute vie. » Est-ce que vous pouvez faire écho à cette manière qu'a le pape François en fait, de retourner quelque part la question en disant que la question du regard sur le migrant, c'est en fait, dans le fond, une question qui nous est posée à nous.
Oui, le pape François utilise le terme intégration. Par intégration, enfin, je rebondis sur votre question, par intégration, ce n'est pas intégration consistant à intégrer l'autre dans un moule corseté, franco-français, franchouillard et laïcard. Ça consiste aussi à être en capacité d'écoute, encore une fois, du potentiel, de la richesse de l'autre, pour que, précisément, le moule que je lui propose puisse être refondu éventuellement et être reformaté. On a besoin, notre société ne pourra s'enrichir que si on accepte la différence de l'autre. Donc, je pense, hein, je lis et j'entends la parole du pape en ce sens-là. C'est-à-dire que nous avons tout intérêt pour le dynamisme de notre société, pour la vitalité de notre société, multiculturelle de fait, à intégrer. Et intégrer, ce ne sera pas une juxtaposition de communautés culturelles, ce sera un communautarisme à l'américaine, ce sera bien un principe de intégration au sens de « tu as des choses à m'apporter, j'ai des choses à t'apporter, partageons ».
Je cite un autre passage, « Le progrès de nos peuples dépend surtout de la capacité de se laisser remuer et toucher par celui qui frappe à la porte et qui, avec son regard, discrédite et prive d'autorité toutes les fausses idoles qui hypothèquent la vie et la réduisent en esclavage, idoles qui promettent un bonheur illusoire et éphémère construit aux marges de la réalité et de la souffrance des autres. » Voilà, ça c'est une déclaration forte du pape François. Le pape François a un leitmotiv que j'aimerais que vous décliniez, c'est, je le citais en introduction, accueillir, protéger, promouvoir, intégrer. Je répète, accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Il avait déjà donné ce, je ne sais pas comment on dit, pour quatre pieds, c'est quadriptique, lors du message donc, de l'année dernière. Il ne cesse de le répéter presque depuis le début de son pontificat. Éclairez-nous sur ces quatre mots et sur ce qu'ils revêtent comme signification et comme invitation.
Accueillir, c'est bien sûr ne pas élever des digues et ne pas contingenter des gens, circonscrire des gens dans des camps de concentration. Ça existe. Hein, le centre de rétention administrative de Cornebarieux est précisément ce type d'accueil-là, contre-productif. Voilà. Donc accueillir, c'est bien sûr, c'est ouvrir nos portes.
Concentration, c'est d'ailleurs une expression qu'a utilisée le pape François, il me semble,
absolument,
en certaines circonstances.
Hein. Oui. Donc protéger d'abord. Protéger, c'est protéger la totalité d'un être qui arrive, qui a traversé souvent des épisodes particulièrement redoutables, avilissants. Donc ça consiste à le prendre toute sa dimension et à lui assurer une véritable protection de sa dignité. Voilà.
Ce qui recouvre quoi ? La sécurité ?
Ce qui recouvre la sécurité,
le fait d'être logé.
L'intégrité physique, l'intégrité morale, mentale de la personne. Mais ça veut dire aussi ça se cumule avec le précédent terme accueillir, donc ce sera aussi l'intégrer dans une parole, dans une culture linguistique qui n'est pas la sienne, donc un apprentissage, hein. Pour le, au total on peut imaginer une dialectique pour le promouvoir,
hein. Accueillir, protéger, promouvoir.
Promouvoir,
donc, promouvoir, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Apprendre à lui laisser une place
dans toute sa dimension, pour lui faire s'exprimer son potentiel, on pourrait dire, hein, de développement personnel, humain, professionnel, intellectuel, moral, voilà, qu'il soit heureux. Hein, voilà. Et puis, le dernier terme, c'est donc intégration, j'en ai dit deux mots. Et l'intégration, c'est réciproque. Donc il n'y a pas de système que l'on souhaite imposer à personne. Enfin, ce serait ça l'objectif, hein, tel que je comprends la parole du pape. Mais un système dans lequel, précisément, on a des choses. C'est perméable. C'est pour eux. C'est réciproque.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver donc à propos de cette journée mondiale du migrant et du réfugié. C'est le 29 septembre prochain, avec ce message du pape François, une fois de plus fort à lire et à relire. Il ne s'agit pas seulement de migrants. On fait une pause, et puis on vous retrouve ainsi que nos autres invités pour ce sujet important s'il en est.
Thank you. présence.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Coup de zoom sur la journée mondiale du migrant et du réfugié. C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce jour. Autour du plateau, Gilles Hinault, responsable de la pastorale des migrants pour le diocèse de Toulouse, et Raoul Ngaradje, ressortissant tchadien et demandeur d'asile qu'on accueille. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, merci d'être avec nous ce matin. Alors, à la défaut d'avoir eu Catherine Vittel de Venden, je rappelle, professeur de sciences politiques à Sciences Po, auteur d'un ouvrage Atlas des migrations paru aux éditions Autrement. Je dis et je cite son ouvrage parce que il est vraiment intéressant. Je vais essayer de donner deux, trois idées clés afin de, on va dire, de dézoomer à l'échelle du monde ou de la France et puis après d'arriver à nouveau sur Toulouse. Elle explique donc dans cet ouvrage que le phénomène migratoire est un phénomène en explosion. En 10 ans, donc, le nombre de déplacés a été multiplié par 3, expliquant que les migrations forcées et volontaires sont de plus en plus fréquentes. Et elle a cette phrase, cette mondialisation de la migration peine à trouver sa légitimité sur la scène internationale et mondiale. Pour la France, elle rappelle quelques chiffres, pour l'Europe, pardon, 1,2 million de demandes d'asile en Europe en 2015. Donc c'est les chiffres du HCR, au commissariat aux réfugiés, et 3700 morts, il faut le rappeler, en 2015 dans la Méditerranée. Si on arrive, après ce léger dézoom, à Toulouse, avant qu'on donne la parole à Raoul Ngaradje et Gilles Hinault, quels sont les chiffres pour une ville comme Toulouse? Vous me disiez que c'était quand même 10% des migrations françaises pour la ville rose.
Voilà, les chiffres que l'on peut avancer sont issus du ministère de l'Intérieur. Et les chiffres que produit le ministère de l'Intérieur, ce sont les chiffres de personnes enregistrées, donc tant dans le domaine des titres de séjour que dans celui de l'asile, donc de la migration à caractère humanitaire, le droit d'asile.
C'est ceux qui font une demande, en
c'est
fait.
C'est ceux qui ont été acceptés par la France. Alors, pour ceux qui ont été acceptés par la France, on se situe dans des proportions beaucoup moindres que ce que vous venez de dire à propos des chiffres là pour l'Europe. La France accueille, donc enregistre et valide, environ 250 000 nouvelles personnes par an. 250 000. Hein. Et sur ces 250 000, il y en a un cinquième, moins d'un cinquième pour l'asile. Donc, on est autour de 40-45 000 par an. De gens acceptés. Donc, ensuite, sur Toulouse, les demandes enregistrées pour l'asile, par exemple, les demandes enregistrées pour l'asile se situent bon an, mal an à entre 5 et 6 000 nouvelles demandes par an. Et sur ces 5 à 6 000 nouvelles demandes par an, on arrive à des demandes enregistrées validées, donc des gens
auxquels on dit oui,
pour environ 1800 par an.
Alors, Raoul Ngaradje, on va parler un petit peu de vous en disant ce que l'on peut dire. Vous êtes d'origine tchadienne, donc vous êtes en France depuis 2005. Vous avez fait une demande d'asile en 2017. Ma question va peut-être être indélicate. Vous dites ce que vous pouvez dire. Pourquoi est-ce que vous demandez l'asile?
Je demande simplement l'asile pour des problèmes plus politiques liés à mon pays. Parce qu'aujourd'hui, faut pas se leurrer de la face, il y a un système aujourd'hui de gestion face à la politique de mon pays qui fait que quand on a affaire à un président qui a vécu plus de 32 ans au pouvoir,
voilà, au Tchad, hein, donc
au Tchad, ouais, et que derrière on se retrouve victimisé par des phénomènes internes qui ont de la percussion face à nous, face à notre liberté.
Donc vous ne pouvez plus vivre dans votre pays, c'est pour ça que vous demandez l'asile ici en France. Ouais. Alors vous vivez aujourd'hui donc dans un squat à Toulouse, le squat de l'avenue de Muret, c'est un des plus grands squats de Toulouse, hein, Gilles Hinault. Vous y jouez, semble-t-il, un rôle important, vous êtes une personne référente là-bas, en tout cas Gilles Hinault vous disait que ce que vous faisiez était remarquable. Est-ce que vous pouvez nous raconter la vie dans un squat? Il y a combien de personnes qui y vivent et quelle est un peu la situation sanitaire, sociale?
Écoutez, effectivement, comment ça se passe la vie dans un squat? C'est qu'on a fait une réalité de par notre éthique interne, de par notre manière de voir les choses et de par notre vécu, ce qui crée un système organisationnel interne. et la persuasion en fait de l'autorité extérieure face à ce phénomène. Il y a une persuasion déjà de par le migrant, une persuasion, on va pas voir que de l'aspect négatif. D'un côté négatif.
Mais juste, avant qu'on vienne à ce type de considération, il y a combien de personnes dans ce squat ?
On est 700, à peu près 700 à l'heure actuelle aujourd'hui.
Qui ? Il y a des personnes seules, des familles ?
Il y a des personnes seules, des familles, des enfants, il y a tout type et catégorie d'individus et tout.
Les gens dorment quoi ? Sur des matelas ? Les vitres sont fermées ? Est-ce qu'il y a du chauffage ?
Sur des matelas, dans des chambres, des bureaux qui sont retransformés en chambres. Pour un peu, on en a fait un truc en fait aujourd'hui en fait. Et on a créé un système organisationnel qui reflète de notre propriété, comme je viens de dire tout à l'heure, en fait. Le système organisationnel, il est spécial, en fait. Donc, résultat, on a pris pour un peu, on en a fait beaucoup, et pour un peu, on en est heureux aujourd'hui, en fait.
Est-ce qu'il y a de l'eau ? Il y a un accès à l'eau potable, par exemple, ou...
Ben, ouais, il y a l'accès à l'eau potable dans certains bornes, mais pas dans tous les bâtiments, mais on essaie de faire avec.
D'accord. Et vous diriez que c'est une situation, en fait, de crise, c'est-à-dire qu'on vit dans ce squat... On y survit ou est-ce que vous considérez que quelque part aujourd'hui c'est une forme de logement à peu près décent qui vous est proposé ?
Ben on y vit, pourquoi ? Parce que après ce sont les initiatives des citoyennetés de chacun en fait, de par la prise de conscience. Parce que si aujourd'hui l'autorité ne veut pas prendre et faire son rôle en ce qui le concerne de par ce nombre qui est là, s'il y a des initiatives de citoyenneté, ben, qui peut faire promouvoir et avancer aujourd'hui la politique de la ville. Ben, s'il y a des individus qui sont pour, ben, c'est ce qu'on essaye d'y faire.
Gilles Hénaud, vous y êtes allé, j'imagine, dans ce squat. Est-ce que vous pouvez compléter la description de ce squat ?
Oui, alors donc, les chiffres, je ne les connais pas aussi bien que Raoul, mais je me fie à ce qu'il dit. On trouve des couloirs. Donc, il s'agit des anciens locaux de Enedis EDF, hein, qui sont donc occupés illégalement. Hein. Un squat est un hébergement illégal par des gens qui n'ont pas d'autres moyens. Donc oui, alors on trouve des gens un petit peu partout, dans les couloirs, dans des bureaux transformés en chambres. L'organisation dont parle Raoul a consisté à proposer à des communautés ethniques de se retrouver à tel et tel étage ou dans tel et tel bâtiment, de telle façon qu'il y ait le moins de conflits possible, parce qu'il y a des religions qui peuvent se confronter, hein, et des groupes ethniques qui peuvent se confronter entre eux. Donc le rôle de personnes comme Raoul consiste justement à apporter des éléments d'apaisement. Et grâce à cette faculté d'apaisement, les pouvoirs publics sont tolérants d'une situation qui n'est pas normale, mais qui arrange bien tout le monde parce qu'il n'y a pas de proposition. À propos de l'asile, il faut dire que Toulouse et l'ensemble de la région Midi-Pyrénées, ou même aujourd'hui Occitanie, offre quelques 4000 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile. Il en faudrait sans doute le triple. Hein. Donc il n'y a pas assez de places.
Raoul Ngaradje, donc vous avez fait, je le disais tout à l'heure, vous êtes en France depuis 2005, vous avez fait des études donc à Rennes, vous avez un Master 2 d'administration économique et sociale, et donc en 2017, vous avez fait une demande d'asile. Normalement, Gilles Hénaud, vous me disiez, les délais de réponse sont environ de 3 mois, et vous n'avez toujours pas de réponse. Mmh. Quelles sont les perspectives, on va dire, de sortie de crise pour vous ? Est-ce que vous êtes suspendu, en fait, à cette réponse, qu'est-ce que vous pouvez faire en attendant ? Est-ce que quelque part vous êtes un peu bloqué ?
Ouais, c'est dommage parce que c'est un potentiel qui reste un potentiel gâché. Parce qu'aujourd'hui, de par pas que moi, et de par mes collègues et tant bien d'autres en fait, qui disposent d'un potentiel où aujourd'hui, quand on voit aujourd'hui la collectivité territoriale, ce qui demande en fait qu'on m'appuie pour une soutenance de par les actions. Et quand on voit un potentiel qui est gâché de la sorte, je trouve que c'est aberrant.
C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être bloqué, en fait, d'être dans une espèce de zone grise où vous ne savez pas à quoi vous en tenir, c'est ça ?
Ouais, tout à fait.
Vous me disiez, Gilles Hénaud, qu'il y avait aussi une possibilité. Alors, on ne va pas passer un temps fou sur le cas de Raoul Ngaradje, mais c'est intéressant de préciser qu'à un moment, la France, en fait, se mettant quelque part en tort, Raoul Ngaradje, en l'occurrence, pourrait être, par exemple, employé.
Oui, la loi relative à l'asile et à l'immigration de septembre 2018, par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, a proposé dans un délai de 6 mois après une demande initiale de demande d'asile, donc après un délai de 6 mois sans réponse de la part de l'OFPRA, hein, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, eh bien, le requérant, en langage administratif, est autorisé à travailler pour peu qu'il trouve un employeur
qui va lui offrir un contrat de travail. Sur cette base-là, le requérant pourra se présenter devant la préfecture avec une proposition de contrat de travail, en disant « Voilà, monsieur le préfet, j'ai trouvé potentiellement un travail. Vous voyez, je n'ai pas de réponse de l'OFPRA et vous pouvez le vérifier. » Oui, en effet. Donc, dès lors, la personne peut travailler. Mais la grande difficulté, précisément, consiste à trouver un employeur qui acceptera de jouer le jeu.
Et puis, on imagine que quand on dort dans un squat comme ça, ça ne doit pas aussi faciliter les recherches d'emploi. Est-ce que vous vous mettez en recherche d'un emploi, du coup, Raoul Angaradje, ou pas ?
Ça a été fait et ça continue toujours d'être fait. Mais le système de bureaucratisation aujourd'hui, ici en France, reste un aspect où le migrant peut pas s'atteler à ça pour pouvoir faire une demande quelconque, en fait. Parce que plus la bureaucratisation, tout ce qu'on demande en papier y est élevé, plus aujourd'hui la procédure en fait, de recherche d'emploi reste compliquée, en fait.
Donc on entend votre difficulté. Alors dernière chose, avant qu'on fasse une deuxième pause, je voulais un petit peu que vous nous parliez de l'importance de l'accompagnement de l'Église. Il ne s'agit pas forcément de tirer la couverture à soi. Hein. Il y a plein d'associations remarquables qui aident les personnes migrantes et les demandeurs d'asile. Mais donc il y a dans chaque diocèse une pastorale des migrants, et le pape François vient à l'occasion donc de cette journée mondiale du migrant et du réfugié, entre autres soutenir l'action de toutes ces pastorales dans tous les diocèses du monde. Journée donc le 29 septembre prochain. Vous, qu'est-ce que ça a changé en fait de croiser la route de Gilles Hénault et des gens qui sont avec lui sur votre route, Raoul Angaradje?
Mais déjà, le Christ, il a dit quoi? Le meilleur commandement, il nous laisse. C'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc si on va sur cette base, le fait de, quand on revoit l'être humain, on revoit le Christ. En tant que chrétien, revoir l'autrui, c'est revoir le Christ.
Et vous avez l'impression quoi, que la pastorale des migrants, c'est comme ça qu'elle vous a regardé, c'est ça qui vous a fait du bien?
La pastorale des migrants, c'est la vision du Christ, en fait, en gros.
Voilà, mais est-ce qu'il y a un avant et un après? Vous n'avez peut-être pas toujours connu la pastorale des migrants.
La pastorale des migrants, c'est simplement le Christ. Le Christ, il est aujourd'hui, il est demain, et il sera toujours dans l'éternité. Et c'est une réalité, en fait. Et cette réalité veut que nous, en tant que chrétiens, l'amour de l'autrui passe par quoi? Passe par son amour personnel, son amour propre, en fait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos actions, en fait, concrètes, et les actions des chrétiens et des cathos, concrètement, face à ce squat, ce sont les actions qui sont basées sur un phénomène d'amour, en fait, la perception de l'amour. Donc, ce qui fait que l'autrui, de par sa perception, a peut-être un jugement, qu'on est dans une société aujourd'hui capitaliste, du donner, du recevoir, sauf que cette vision de par le Christ qui nous retranscrit, c'est une vision de l'amour, donner sans attendre un retour, en fait.
Alors, le pape François, sujet à une expression, le développement qui exclut en les riches plus riches et les pauvres plus pauvres, c'est toujours donc dans son message à l'occasion de cette journée mondiale du migrant et du réfugié, le développement véritable est celui qui se propose d'inclure tous les hommes et toutes les femmes du monde en favorisant leur croissance intégrale et qui se préoccupe aussi des générations futures. C'est une lourde charge quand même, Gilles Hénault, c'est-à-dire vous êtes le visage du Christ pour tous ces migrants. On entend aussi que Raoul Angaradje se voit un peu comme un délégué aussi de la pastorale des migrants dans le squat qu'il coordonne. Comment vous présenteriez le rôle de cette pastorale?
Alors, on va dire que le fardeau est léger, hein, selon les termes de l'Évangile. Il existe, il faut le savoir, une pastorale des migrants au niveau national portée par la Conférence des évêques de France. Et donc, on comprend bien qu'on trouve des pastorales de migrants dans chaque diocèse. Alors, le nouveau responsable que je suis depuis le début de ce mois de septembre n'arrive pas en terrain vierge et désert. Il existe déjà énormément de choses. Et ma première tâche consiste à prendre connaissance de ce qui se fait. Il se fait déjà énormément de choses dans les paroisses, portées par les équipes d'animation pastorale, par les curés, hein, mais aussi par de très nombreux mouvements d'église.
Alors, citez-les, puisqu'on a un petit peu de temps.
Oui, alors, donc bien, oui.
Vous êtes là pour coordonner, pour animer, non, pour
je suis
soutenir.
Là pour coordonner, pour soutenir. Ce serait assez déplaisant que je cite quelques paroisses, mais je peux le faire quand même, dans toutes les paroisses du Toulousain, hein, de la banlieue de Toulouse. On trouve des gens, des équipes d'animation pastorale avec des pastorales de migrants. On trouve des prêtres très engagés, des mouvements d'église très engagés. Il faut citer les grandes organisations non gouvernementales comme le Secours catholique Caritas France, comme le CCFD, mais aussi sur Toulouse, c'est plus propre à Toulouse, des associations comme Passe en Toi, Terre d'Amis,
JRS
Welcome, bien sûr. JRS Welcome.
JRS, donc, qui propose en l'occurrence d'accueillir au sein d'une famille.
JRS Welcome sur le Toulousain, c'est 150 familles aujourd'hui, alors que ça avait démarré il y a une dizaine d'années avec une dizaine de familles. Et 150 familles, il ne faut pas se tromper, ça donne une capacité d'accueil d'environ 40 personnes, pas plus. Parce que les familles se fatiguent, elles se lassent, elles ne sont pas contraintes par autre chose qu'un engagement moral.
Donc il faut rappeler que pendant 3 mois, elles proposent à des demandeurs d'asile vivre au sein de la famille.
C'est là, pendant un mois par famille. Puis au bout d'un mois, la personne accueillie va dans une autre famille. Et cela, ça dure pendant... Ce qui est offert, c'est une visibilité de 6 mois. Et c'est merveilleux, parce que du coup, la personne demandeur d'asile, en l'occurrence, se crée un tissu relationnel, amical, familial, j'oserais même dire, qui lui permet justement d'appeler, quand il est sorti du réseau Welcome, d'appeler, de retrouver des amis, et ça fonctionne très très bien.
Gilles Huneau, pour finir cette émission, avant qu'on donne quelques informations pratiques, quelle serait l'adresse que voudriez lancer aux auditeurs dans la suite de ce message donc, de la 105e journée mondiale du migrant et du réfugié qu'on va célébrer le 29 septembre prochain, avec ce titre « Il ne s'agit pas seulement de migrants ». Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à nos auditeurs ?
Bien, je propose à nos auditeurs que ceux-ci se retournent d'abord et de manière privilégiée vers leur paroisse, vers leurs équipes d'animation pastorale, vers leurs prêtres, qu'ils interrogent, qu'ils sollicitent, qu'ils demandent ce qui se fait dans leur paroisse pour accueillir des migrants. Il se fait déjà énormément de choses. Donc qu'ils ouvrent leurs oreilles, sinon leur cœur. Ensuite, la pastorale des migrants n'a pas vocation à être l'interlocuteur de chaque personne qui se poserait des questions, mais je peux donner mon contact sans aucun problème. Je suis joignable 28 rue de l'Aude, à la maison diocésaine du Christ roi. Ça vaut pour le diocèse de Toulouse, bien sûr.
Puis sinon, il suffit de se tourner vers les sites des diocèses de notre région, ou donc vers les maisons diocésaines. Merci beaucoup à vous d'être venu nous parler de cette journée mondiale du migrant et du réfugié, le 29 septembre prochain. Message à retrouver donc du Saint-Père, il ne s'agit pas seulement de migrants, et on redonne quand même, à défaut de l'avoir eu, le titre de l'ouvrage de Catherine Vitold Venden, ouvrage à parcourir, Atlas des migrations, un équilibre mondial à inventer, paru aux éditions Autrement. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.